Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, au fil des pages s'intéresse aujourd'hui au livre qui vient de sortir, Montagne, les grandes œuvres de la Terre, publié aux éditions de La Martinière, un bel ouvrage de photos dont les auteurs sont Paul Taponnier et Kevin Kling, et nous recevons Paul Taponnier, membre de l'Académie des sciences et géologue, pour nous parler plus en détail de cet ouvrage. Alors, Paul Taponnier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être de nouveau avec nous. Je dis de nouveau puisque nous avons déjà réalisé une première émission avec vous qui s'intitule Éclairage sur votre spécialité, la déformation des continents. Et nous renvoyons d'ailleurs nos auditeurs à cette émission pour en connaître davantage sur ces fameuses plaques tectoniques qui se chevauchent ou s'écartent. Aujourd'hui, donc, nous avons les photos, les illustrations de cette émission sur la déformation des continents. Pour commencer, tout simplement, ces photos représentent combien d'années de travail, de parcours ?
C'est une vingtaine d'années, disons. C'est depuis la fin des années 70, c'est peut-être un petit peu plus, même 25 ans. La Terre est vaste, il y a beaucoup de montagnes dans beaucoup d'endroits différents. Les plus belles ou les plus intéressantes sur le plan de la géologie en marche ne sont pas forcément les montagnes les plus connues. Si on va dans les Alpes, par exemple, c'est bien dur de voir bouger quoi que ce soit. Et ce qui nous apprend le plus dans ce domaine, c'est de voir bouger les choses. Je dis toujours que la tectonique, la géologie structurale, on emploie souvent ces mots comme des synonymes, mais c'est pas tout à fait vrai. La géologie structurale, ça s'apparente un peu à la photo. Alors, on me dirait, dans ce bouquin, il y a des photos. La tectonique, c'est plutôt le cinéma. Mais ce qu'on essaye de montrer, justement, avec ces photos, c'est que les montagnes ne sont pas statiques, elles vivent, elles se développent, on les observe à différents états de croissance au cours de leur vie.
Alors, la personne qui a réalisé ces photos n'est autre que Kevin Kling, qui est votre épouse, tout simplement. Donc, vous avez parcouru ces montagnes, notamment l'Asie, qui est votre fer de bataille.
Oui, c'est ça, l'Asie, parce qu'il faut bien dire que c'est là que l'on observe le plus de montagnes, les plus hautes du monde, et celles qui surgissent le plus vite. Et aussi, pourrais-je ajouter, celles qui sont les plus jeunes. Donc, si vous voulez, si on veut comprendre comment naissent et comment croissent les chaînes de montagnes, c'est avant tout dans cet endroit-là qu'il faut aller. Alors, je redis, c'est parce que ces montagnes-là sont en vie aujourd'hui. Elles vivent de façon fantastique. La raison d'être de tout ça, c'est la collision continentale la plus spectaculaire du monde, qui est celle entre l'Inde et l'Asie. Vous savez qu'à l'heure actuelle, l'Inde continue de pénétrer dans le continent asiatique à une vitesse voisine de 4 cm par an. On avait déjà, je crois, parlé un peu de ça. On avait insisté beaucoup sur les tremblements de terre. Et c'est à l'intérieur du continent asiatique, tout entier, jusqu'à des distances qui sont de 3000 km vers le nord ou vers l'est, que se produisent les plus grandes déformations, les formations les plus rapides. Il y a en Asie une demi-douzaine de failles qui sont comparables à la faille de San Andreas en Californie, par exemple. Il y a des chaînes de montagnes dont les noms sont ignorés de la plupart, alors que elles sont parmi les plus grandes de la planète, et les Alpes à côté font pas le figure. Le Tien Shan, par exemple, a toute une forêt de sommets qui dépasse 5000 mètres, quelques points culminants qui frôlent ou dépassent 7000 mètres. C'est une chaîne qui a 2000 km de long. Enfin, voilà un exemple. On pourrait prendre l'Altaï aussi, qui est à cheval sur la Sibérie, la Mongolie, la Chine, et qui est une chaîne qui n'a rien à envier aux Alpes elles-mêmes.
Donc c'est une gigantesque chambre de jeu, on va dire, pour le géologue que vous êtes.
C'est un terrain, oui, terrain de jeu. C'est un terrain de jeu. Les scientifiques s'amusent, c'est connu. Si on ne fait pas de la science en s'amusant, c'est qu'on n'a pas la passion. Et donc, et c'est aussi la plus grande concentration de montagnes bien exposées. C'est-à-dire, je m'explique, on voit tout dans ces montagnes d'Asie. Il y a, à part les versants sud de l'Himalaya et les montagnes du Sichuan ou du Yunnan, il y a finalement très peu de végétation. L'eau de la mousson s'abat sur les premiers reliefs que les vents rencontrent lorsqu'ils viennent de l'océan Indien et du Pacifique. Et donc, on a un grand désert. Et dans ce désert, on voit les formes presque intactes. Je dis toujours que le tectonicien qui s'intéresse à la déformation actuelle, qui est un géomorphologue, est quelqu'un qui est aussi pris de forme qu'un sculpteur ou un danseur. Il faut comprendre les formes pour comprendre comment ça bouge. Alors on a là-bas un zoo de formes extraordinaires, et en les observant patiemment, astucieusement, d'en haut, de profil, de face, et d'ailleurs aussi d'en bas, on finit par comprendre beaucoup de choses.
Alors justement, pour argumenter ce que vous venez de dire, dans les textes qu'on retrouve donc dans votre livre, Montagnes et grandes œuvres de la Terre, pour cette végétation rase que l'on peut trouver le long de ces montagnes, vous parlez de juste au corps,
comme quelque chose
qui colle à la peau de ces montagnes. Et de ce fait, vous leur donnez aussi une vie, une apparence humaine.
Oui, c'est ça. Je pense que la comparaison est correcte. Quand on se promène dans la steppe Dzungar, au pied du Tien Shan, il y a là une steppe rase qui effectivement colle aux plis. On les voit magnifiquement. Si on était perdu dans la selva, côté forêt amazonienne des Andes, les choses sont quand même moins apparentes et moins nettes.
Alors, vous leur donnez une apparence humaine, vous leur donnez aussi une vie à part entière, puisqu'elles naissent, elles grandissent, elles vieillissent, et puis elles meurent. Les montagnes meurent aussi, à une échelle, à l'échelle de millions d'années, nous sommes bien d'accord.
Oui, même de dizaines de millions d'années, les échelles de temps sont très longues. Ce qui est assez remarquable, c'est que les échelles finalement de naissance des montagnes sont longues par rapport à l'échelle humaine, mais elles sont quand même, sur le plan géologique, assez courtes. Moi, une des choses qui m'a frappé, je reviens à mes chaînes favorites d'Asie centrale, le Tien Shan, ou les chaînes
mongoles.
Montagnes célestes, oui. Les montagnes célestes, parce que dans ce pays, je disais, la végétation, c'est une steppe rase, mais il y a aussi du désert. Et quand on y va, dans la plupart des saisons de l'année, il y a une espèce de brume de poussière, de sable et de loess qui traîne dans les premières centaines de mètres. Et donc, très souvent, on voit ces montagnes de très loin, on voit les sommets englacés qui flottent sur cet océan de brume, et elles sont dans le ciel. On n'en voit pas la base, elles sont détachées de leur base, elles sont dans le ciel, d'où le nom, sans doute, Tien Shan, sans doute. Et donc, je reviens aux échelles de temps, certaines jeunes montagnes naissent finalement très rapidement. Je parle des plis que l'on trouve devant le Tien Shan, qui sont des espèces de boutures. L'action s'est avancée dans le piémont. Et on voit ces jeunes plis, qui sont tout doux, là.
Oui,
qui sont,
on retrouve d'ailleurs ces photos dans votre livre.
Voilà. Et qui surgissent de la plaine. On trouve ça très doux, c'est très graduel. Quand on a quelques âges, on s'aperçoit que ce sont des plis qui peuvent croître rapidement. Ils ont quelques centaines de mètres, mais leur âge, c'est quelques centaines de milliers d'années. Donc on est là en train de faire pousser ces jeunes objets à des vitesses qui sont de quelques millimètres par an. Et à quelques millimètres par an, il faut très peu de millions d'années pour aboutir à des altitudes de 4000 mètres. Donc finalement, la naissance est assez rapide. C'est ça que j'essaye de montrer. Alors, on voit aussi, on se promène dans ces immensités désertes, tout est calme. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que ces montagnes se fabriquent par sursaut.
C'est les fameux à-coups, en fait, les séismes.
Voilà, les à-coups. Donc, il y a sous chaque pli ou presque une faille dite inverse qui fait monter les roches du dessus et descendre celles d'en dessous. Et ces failles sont bloquées la plupart du temps, pendant des centaines d'années. Et puis, brutalement, elles glissent de plusieurs mètres. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs au Pakistan, par exemple, à l'automne dernier. C'est presque il y a un an jour pour jour. C'était le 8 octobre. On est le 16 octobre, donc ou le 17, je ne sais plus. Donc là, d'un coup, les contreforts de la chaîne du Pir Panjal sont montés de 5 mètres, avec un tremblement de terre dévastateur, sur seulement une centaine de kilomètres de long. Donc vous voyez, ces montagnes...
Après une large tension, ça finit par lâcher.
Après, les tensions accumulées pendant des siècles. Alors, on ne sait pas encore si c'est 500 ans ou 1000 ans. Nos collègues japonais ont des résultats récents qui suggèrent que c'est plutôt 1000 ans. Mais tout ceci reste à démontrer. Et ce sont ces sursauts de croissance qui font jaillir les montagnes du sol. Alors, Attention, je dis jaillir, mais les montagnes ne sont pas des champignons.
Hein. Oui, voilà. Là, vous voulez peut-être parler des fausses montagnes, peut-être.
Oui, ou peut-être pas encore. Mais disons, ce qui fait l'originalité de la planète Terre, c'est d'avoir des vraies chaînes de montagnes. J'insiste sur le mot chaîne. Ce sont des barrières montagneuses qui érigent des reliefs en continu sur des centaines, voire des milliers de kilomètres de long. Et ces montagnes-là sont, en général, il faut raccourcir la croûte pour fabriquer du relief vertical. Donc, on ne trouve ça que sur les frontières de plaques convergentes ou bien sur les là où deux blocs de la croûte terrestre se rapprochent, comme c'est le cas en Asie centrale. Et donc, ces montagnes-là, le mouvement vertical est le résultat, finalement, d'un mouvement horizontal. Alors, ça n'existe pas, par exemple, sur Mars, vous n'avez pas ça. Hein, sur la plupart des objets du système solaire, vous n'avez pas ça non plus. Sur Vénus, il y a sans doute eu des montagnes, mais il ne semble pas que ces montagnes soient actives aujourd'hui. Et donc, la Terre est vraiment le principal architecte de chaînes de montagnes qui existent dans le système solaire.
Alors, vous parlez de champignons, que les montagnes ne poussent pas comme les champignons, mais que dire de ces volcans? Les volcans ne sont pas des montagnes?
Oui, voilà, alors c'est ça. Alors, les fausses montagnes, si vous voulez, c'est... Et il y a aussi d'autres montagnes qui ne sont pas des chaînes, hein, qui sont des reliefs isolés, même si il y en a parfois des grappes, ce sont les volcans. Hein. Il y a des volcans qui peuvent être très hauts. Dans les Andes, on a des volcans dans l'altitude de Frise 7000 mètres. En tout cas, des volcans bien dans actifs Andes, dont l'altitude dépasse 6000 mètres. Donc, ce sont de très belles montagnes, majestueuses. Il y a des glaciers, il y a tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est des montagnes un petit peu postiches.
Les fausses montagnes.
Oui, donc, je les appelle les fausses montagnes par opposition aux vraies chaînes de montagnes. Disons. Et qu'est-ce qu'on fait là? Ben, on a une source de magma en profondeur, un tuyau, la plomberie qui permet à ce magma d'arriver en surface, et on accumule le magma. C'est un peu un postiche hein, qu'on rajoute, un emplâtre qu'on rajoute à la surface de la croûte, sans cette fois que rien ne change alentour, ou peu de choses. Donc c'est un petit peu ça, des fausses montagnes au sens des champignons. Hein. Il existe aussi des montagnes qui sont très étonnantes et qu'on peut ranger dans la catégorie des fausses montagnes, parce que finalement ce sont des plaines ou des bassins. Et ces plaines et ces bassins, contrairement aux bassins parisiens ou aux grandes plaines de l'Europe du Nord, se trouvent à des altitudes qui sont celles des montagnes, c'est-à-dire 4000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, etc.
On se retrouve donc avec des immenses étendues, mais à une haute altitude.
Des immenses étendues plates qui sont à de très grandes altitudes. Et ça, c'est un paradoxe.
C'est ce qu'on retrouve au Tibet, par exemple.
C'est ce qu'on trouve au Tibet, c'est ce qu'on trouve aussi à un moindre degré dans la partie centrale des Andes, l'altiplane ou le haut plateau andin. C'est ce qu'on trouve aussi, à certains égards, en Iran. Hein, l'Iran, vous le savez, tout le centre de l'Iran est à 1500 mètres d'altitude à peu près. Et peut-être, on pourrait dire qu'il y a aussi les hauts plateaux algériens qui rentrent dans cette catégorie, la meseta espagnole, avec des altitudes bien plus modestes cette fois. Donc, qu'est-ce que c'est que ces régions qui sont très hautes et très plates?
Oui,
parce que ça, ça
c'est,
va,
c'est l'érosion qui joue.
Ça va pas, oui, alors c'est l'inverse de l'érosion. Ça va pas ensemble. Normalement, quand un relief est haut, il n'a pas le droit d'être plat, parce que l'érosion attaque tout ce qui dépasse, et c'est le cas général. Dans les montagnes, on voit des pics qui sont de plus en plus acérés, qu'ils sont hauts, rabotés, incisés par des glaciers d'abord, des rivières ensuite, etc., et le tout de façon inlassable. Alors, comment se fait-il qu'il y ait des étendues plates à haute altitude? Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ces ensembles-là font partie d'un ensemble montagneux plus grand, et les rivières qui normalement attaquent les reliefs sont barrées par des montagnes périphériques. Mmh. Donc on fabrique des bassins à très haute altitude. Les rivières qui érodent les reliefs qui subsistent dans ces régions-là, qui peuvent être très hauts, hein, 5000 mètres, 6000 mètres, n'atteignent pas la mer. Elles ne savent pas que la mer existe. Elles déposent leurs produits dans des bassins fermés, qui sont barrés par des montagnes qui continuent à surgir, et donc elles les remplissent, un peu comme des baignoires qui se rempliraient ras-bord. Hein. Alors c'est rempli pas seulement d'eau, mais de boue, de débris, de galets,
de sédiments.
Il y a des lacs partout, et quand on se promène sur le plateau tibétain ou sur l'altiplano, c'est la première chose que l'on voit. On voit finalement des grands ensembles plats, des collines, des prairies infinies, des millions de yaks et de moutons qui pèsent si c'est le Tibet, des lamas et autres animaux du même genre si c'est dans les Andes. Et puis des lacs partout, c'est constellé de lacs. il y a des rivières qui méandrent paresseusement, on se croirait vraiment au niveau de la mer, et en fait, quand on regarde son altimètre, c'est pas le cas du tout.
Et d'où la végétation luxuriante, puisque ces sédiments, ces alluvions fertiles...
Non, la végétation luxuriante, pas toujours, parce que, et même, je dirais même, pas souvent. Ces plateaux-là sont aussi... il y a de l'herbe, si vous voulez, c'est des grandes prairies. Luxuriantes, je vais pas aller jusque-là, parce que le Tibet, il n'y a plus d'arbres, l'altiplano non plus.
Pourquoi? Une herbe grasse, en tout cas.
Ouais, il y a de l'herbe. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les montagnes qui encerclent ces régions, ces plateaux orogéniques, sont des montagnes qui arrêtent aussi les précipitations. Donc, si vous voulez, c'est toujours un peu sec. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces plateaux sont en fait des régions dans lesquelles le processus géologique dominant, c'est la déposition, le dépôt, la sédimentation. C'est l'inverse de la croissance d'un relief, en fait. Mais comme on remplit des baignoires, on finit par avoir une surface de bassin qui est très haute. C'est aussi des fausses montagnes, à bien des égards.
Alors je vous propose de marquer une courte pause, Paul Taponi. On se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission consacrée à votre livre « Montagne, les grandes œuvres de la Terre ». À tout de suite.
Canal Academy vous propose de revenir sur les grandes étapes de l'évolution des espèces. 4 milliards d'années ainsi compilées en 45 minutes, le temps de l'émission, avec Claude Combes, membre de l'Académie des sciences. De la première cellule Luca aux organismes pluricellulaires, des parasites aux éléphants, Claude Combes nous entraîne dans le vaste tourbillon de la vie à partir de son livre de vulgarisation scientifique « Darwin, dessine-moi les hommes ». Téléchargez dès maintenant cette émission. Elle est en libre écoute sur Canal Academy.
Suite de notre émission Au fil des pages en compagnie de Paul Taponier, membre de l'Académie des sciences, géologue. Vous travaillez également à l'Institut de physique du globe de Paris. Et vous êtes venu pour nous parler d'un livre que vous avez coécrit avec votre épouse, Kevin Kling, et qui s'intitule « Montagne, les grandes œuvres de la Terre ». C'est un ouvrage de photos, de très belles photos, publié par les éditions de La Martinière. Nous sommes quittés sur ces hauts plateaux, donc à une hauteur de 4000 mètres, qui sont d'une platitude extrême. Vous nous avez expliqué les raisons. Dans ce livre que vous avez réalisé, donc avec votre équipe à deux, avec votre épouse, Kevin Kling, votre livre est divisé en quatre parties. Donc la naissance des montagnes, on en a un peu parlé, les hautes montagnes, les fausses montagnes, dont on vient également de parler avec ces fameux volcans ou ces fameux hauts plateaux, et puis également la mort des montagnes. Alors, que souhaitez-vous évoquer en premier? Les hautes montagnes et cette évolution
peut, si vous voulez, la liaison entre hautes montagnes et mort des montagnes est assez directe. Donc on peut parler d'abord de l'un et ensuite de l'autre. Les montagnes, si vous voulez, on a vu, grandissent dans les régions où la croûte se raccourcit. Alors, on peut se poser des questions diverses sur la manière dont grandissent les montagnes.
Oui, vous posez des questions d'ailleurs très simples dans votre livre, à savoir, est-ce qu'il y a une hauteur limite pour les montagnes? Est-ce qu'elles peuvent grandir éternellement?
On constate, si vous voulez, qu'il n'y a pas de montagne sur notre chère planète plus haute que, disons, 9 km pour fixer les idées au-dessus du niveau de la mer. L'Everest, 8848 mètres. Alors, pourquoi ça? Pourquoi pas 15 kilomètres? Après tout, sur Mars, Olympus Mons est un volcan qui est beaucoup plus haut que l'Everest. C'est une fausse montagne, mais plus haute que l'Everest. Alors, dans le cas des montagnes, des vraies, ce qui se passe, c'est que il y a d'abord, sur notre planète, une érosion extraordinairement efficace, qui est d'autant plus efficace que la montagne est plus haute. Donc ça détruit les sommets très rapidement, l'érosion glaciaire. Et il y a aussi le fait que la gravité est une force qui s'oppose à la surélévation des montagnes. En tout cas, elle s'oppose à la surélévation des reliefs. Lorsque vous essayez de porter un poids à une altitude plus grande, il faut fournir du travail. Et ce travail croît comme le carré de l'altitude. Et ça, on stocke dans la montagne une quantité fantastique d'énergie potentielle de gravité. Et in fine, il devient plus facile de commencer à faire monter des plaines qui sont basses que de continuer à faire monter une montagne déjà haute. Donc il y a aussi une déviation, c'est-à-dire que plutôt que de faire monter toujours plus haut la même chaîne de montagnes avec la même largeur, on a tendance à élargir les montagnes. On fabrique des petites montagnes au pied des grandes qui s'incorporent à la grande. Et donc le résultat final, c'est que les chaînes de montagnes de la Terre, elles augmentent de largeur. Alors, bon, elles augmentent de largeur par des processus qui sont variables. L'Himalaya, les Alpes les Alpes, c'est 200-300 km de large en moyenne. L'Himalaya, c'est un petit peu plus, 300-400 km de large. Si on inclut dans l'ensemble orogénique asiatique l'Himalaya et le Tibet, on atteint des dimensions colossales qui sont presque 1000 km de large. Donc, vous voyez, les montagnes grandissent, mais elles grandissent presque autant en surface qu'en hauteur,
qu'en
au bout
hauteur.
D'un certain stade. Alors, comment ensuite meurent les montagnes ?
Donc là, c'est la quatrième partie de votre livre.
Oui,
hein,
alors évidemment, les montagnes qui meurent, c'est montagnes qui ont atteint la maturité, qui sont hautes, etc. Et en général, on admet que pour qu'une montagne meure, il faut d'abord qu'elle cesse de croître. Donc il faut d'abord que les mouvements des blocs crustaux qui sont en jeu ralentissent ou cessent. Effectivement, si l'Italie cesse de se rapprocher de l'Europe, les Alpes vont disparaître. Bon, c'est un peu d'ailleurs ce que l'on subodore, puisque à l'heure actuelle, si vous voulez, les mouvements que l'on mesure entre la plaine du Pô et le piémont danubien ou bien la plaine de la Saône sont des mouvements qui sont très petits, qui sortent à peine du bruit. Une montagne qui est laissée à elle-même, une dans laquelle il n'y a plus de vie, il n'y a plus ce rapprochement, va se faire détruire par l'érosion. C'est la fin la plus classique.
Mais il existe réellement des plaines où avant c'était réellement des montagnes ?
Absolument, oui, bien sûr.
On a des exemples ?
On a des exemples dans beaucoup d'endroits. Alors, des plaines, peut-être pas tout à fait des plaines, mais dans certains cas, oui. Quand vous vous promenez dans une grande partie du désert de Gobi en Asie centrale, par exemple, c'est une plaine qui est pas tout à fait au niveau de la mer, mais vous marchez sur des roches épouvantablement déformées, en Mongolie c'est pareil, et ce sont des régions qui ont été rabotées à plat par l'érosion. Il en existe d'autres en Europe, hein, la Bretagne, par exemple, hein, le massif armoricain, on appelle ça un massif, mais enfin, faut être sérieux, c'est une série de petites collines.
C'est une série de petites collines.
Bon, ben là, on a des roches anciennes qui sont à l'affleurement et qui ont été rabotées pendant longtemps par l'érosion. Donc, on peut imaginer qu'il y avait là, à l'époque hercynienne, il y a environ 300 millions d'années.
Oui, à chaque fois, c'est toujours des grandes échelles de temps.
Des sommets. Pour ça, les échelles de temps sont beaucoup plus grandes. Hein, je reviens là-dessus tout de suite. Il y avait sans doute des pics étincelants de glace, dans le massif central aussi, et dans l'Oural d'ailleurs, mais à l'heure actuelle, il n'y a plus tout ça. Alors l'érosion détruit les montagnes, et la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps ça prend ? Alors vous voyez, massif central et massif armoricain, on n'est pas encore au niveau de la mer, l'Oural non plus. Donc clairement, la destruction des montagnes prend beaucoup plus de temps, par l'érosion, prend beaucoup plus de temps que leur surrection. Hein, il y a une différence très claire d'âge. C'est pas très bien connu, mais quelques dizaines de millions d'années doivent être nécessaires pour enlever toute trace de glace. Et c'est peut-être bien quelques centaines de millions d'années qu'il faut pour arriver à annuler tout relief. Donc, surrection des montagnes, l'échelle de temps, c'est 1 à quelques dizaines de montagnes, de millions d'années, et des morts des montagnes, c'est quelques dizaines à quelques centaines de millions d'années. Alors, il y a aussi une autre façon.
Les effondrements, c'est ça ?
Oui, dont les montagnes peuvent disparaître. Alors, c'est un sujet qui a suggéré beaucoup d'enthousiasme, qui a été un petit peu galvaudé, on a tous plus ou moins participé à cette affaire. Il y a à peu près 20 ans, une constatation s'est imposée que dans beaucoup d'endroits qui étaient des hauts reliefs assez gros, la dominante de la tectonique actuelle, c'était pas du tout les failles inverses qui fabriquent les reliefs et qui les font surgir, mais les failles normales, c'est-à-dire des failles qui sont plutôt associées sur la Terre à l'écartement des plaques. Hein, on trouve des failles normales en Islande, en Afar, le long des dorsales médio-océaniques, dans les rifts comme le Graben du Rhin, la plaine d'Alsace, ou les Limagnes dans le massif central, ou encore le rift africain. Donc ça, les morceaux de croûte s'écartent, les clés de voûte s'effondrent, on a des failles normales. Et paradoxalement, on trouve des failles normales distribuées un peu partout dans certaines régions montagneuses. C'est le cas des Andes centrales, c'est le cas au premier chef du Tibet. C'est le cas aussi de régions comme la mer Égée ou le Basin and Range dans les rocheuses américaines, nord-américaines. Et donc on s'est posé la question de savoir si en fait des très hauts reliefs ne pouvaient pas s'effondrer. L'idée est la suivante, ils sont tellement hauts que ils n'arrivent plus à garder leur stature, leur maintien, ils perdent leur cohérence, leur cohésion.
Elles s'effondrent sous leur propre poids.
S'effondrent un petit peu sous leur propre poids. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que il y a le relief qu'on voit, et puis il y a la racine de la montagne. Quand vous fabriquez une montagne, vous faites surgir des roches dans l'atmosphère, 4 km de relief, et vous faites aussi descendre des roches de la croûte dans le manteau. C'est que toutes les montagnes sont un peu comme des icebergs dans l'eau. Il y a une petite partie qui dépasse, une grande partie qui est cachée sous l'eau. Et tout ça, hein, que ça soit le léger qui est enfoncé dans le dense, dans le manteau, racine crustale, ou le lourd qui monte dans l'atmosphère, tout ça, c'est des endroits où sont stockées l'énergie potentielle de gravité. Et si la montagne était un fluide, si c'était une espèce de goutte de fluide à la surface d'un autre fluide, la première chose qu'elle ferait, c'est se répandre, oui, un peu comme une goutte d'huile. Donc, on imagine que les très grosses montagnes, par exemple le Tibet ou l'Altiplano, ont envie de s'écrouler, enfin le relief a envie de s'écrouler, la racine de remonter, sous l'effet des forces de, on appelle ça les forces d'Archimède, hein, buoyancy forces en anglais. Mais pour que ça se passe, il faut que ma montagne soit molle, sinon elle va résister, d'accord ? Donc il faut trouver une façon de faire en sorte que la
croûte... Il faut que les roches qui montent à la surface ou qui soient, ne soient pas granitiques.
Non, il faut que la croûte dans son ensemble perde sa rigidité ou descendre en dessous d'un certain seuil de déformabilité, si vous voulez, de plasticité. Donc la façon la plus simple de faire ça, c'est de les réchauffer, ces roches. Et c'est ça qui se passe quand on a une montagne très large. Comme on concentre des éléments radioactifs dans la croûte, elle finit par se réchauffer. D'accord ? Il y a plus de production de chaleur dans la croûte, et la surface qui permet d'évacuer cette chaleur est plus petite. Donc, la croûte se réchauffe. Mm-hmm. Donc, on finit par avoir un haut relief, une croûte continentale épaissie qui devient molle et qui commence à s'étaler. Alors, le cas sans doute le plus clair de cette affaire, au Tibet, on discute encore, parce que finalement, l'extension au Tibet, c'est presque rien. C'est des quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Donc, si ça se passe au Tibet, ça vient de commencer. Je maintiens cette position. Il y a des collègues qui prétendent que ça a commencé il y a 15 ou 20 millions d'années.
La discussion est ouverte.
La discussion est ouverte, mais enfin, on est en train d'obtenir des résultats assez importants qui montrent que finalement, c'est pas si vieux que ça. Donc, on peut discuter. Mais en ce qui concerne le Basin and Range, par exemple, qui est la majeure partie des rocheuses nord-américaines entre le plateau du Colorado et le Pacifique, eh bien là, on a bien l'impression qu'on a toute une série de reliefs qui sont des vallées de 20 km de large, des fossés d'effondrement, séparés par des chaînes qui sont des horses d'un peu haut. On en a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine suivant les endroits, sur une distance de 800 km de largeur à peu près. Et il y a donc eu beaucoup d'extensions, beaucoup de failles normales, mm-hmm, beaucoup d'extensions. Et en même temps, on sait que la croûte a une épaisseur normale. Donc on est obligé, c'est-à-dire le Moho, la base de la croûte est à 30-35 km de profondeur, on est obligé de conclure qu'il y avait là avant un relief qui était, enfin une croûte qui était plus épaisse, un relief qui était plus haut, et que ce relief s'est progressivement distendu,
élargi,
sous l'effet, alors de son propre poids, encore faut-il qu'il y ait des conditions limites propice. Et pendant longtemps, il y a eu une zone de subduction du côté du Pacifique. C'est sans doute ça qui a permis au Basin and Range de s'effondrer sous son propre poids. On pense aussi que, à certains égards, la mer Égée, hein, peut être un exemple de quelque chose d'analogue, avec beaucoup d'îles séparées, qui sont les sommets des montagnes, séparant des grabens, des fossés d'effondrement.
En tout cas, cette idée de l'effondrement est assez récente. Voilà. Le terme technique, c'est collapse orogénique.
C'est le jargon franco-gréco-anglais. Voilà. Alors, il faut quand même être raisonnable. Cet effondrement, hein, cette dislocation intérieure des montagnes, semble réservé à des chaînes qui auraient acquis des dimensions spectaculaires.
Et c'est un effondrement qui survient en un temps très court ?
Non, c'est sans doute les vitesses qu'on observe à l'heure actuelle aussi, c'est des millimètres par an. Donc, si vous voulez, c'est pas très court, ça prend du temps aussi.
Alors, quand on parle d'effondrement, hein, le mot, parce que le mot en fait suscite en nous une imagination,
oui,
on imagine
le
vraiment comme.
Oui, voilà, non, exactement. Non, c'est pas ça, c'est la même chose. Ce sont des processus qui vont à leur train de sénateur, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est des tremblements de terre successifs sur des failles normales qui permettent petit à petit aux montagnes de s'effondrer et de s'élargir en douceur. Alors, ça les élargit encore plus. Hein. Donc, vous voyez, à la fin, on aura une peine et pleine qui sera très étendue. Hein. Il est important, pour bien comprendre ces phénomènes, d'arriver à les voir en marche. Et c'est ça un petit peu le message des images. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on essaye de montrer des images qui veulent dire quelque chose. C'était difficile de faire ce livre parce que ma femme a tendance à choisir des photos sur des critères
esthétiques,
où elle aime bien qu'il y ait un petit peu d'humain dans la photo. Moi, j'ai tendance à choisir les photos qui veulent dire quelque chose de géologique, donc on s'est bien chamaillé. Mais à la fin, on a quand même un certain nombre de photos où je peux décrire par une légende un peu longue ce qui se passe. Donc, ça va de la trace du dernier séisme jusqu'à la construction d'un petit relief, en passant par, et bien sûr, à la fin, les structures que fabrique l'érosion. Hein, montrer comment l'érosion arrive à détruire des formes spectaculaires qui, quand on les voit intactes, ont un sens. Par exemple, le dôme du Moustagata. Mais quand elles sont complètement attaquées, incisées et défigurées par les glaciers, c'est plus difficile de comprendre comment elles se forment.
En tout cas, dans ce livre, c'est une véritable invitation au voyage. J'ai découvert plein de noms de montagnes que je ne connaissais absolument pas. Sortis des manuels scolaires, on se retrouve avec des noms imprononçables. Donc c'était l'occasion d'enrichir mon vocabulaire.
Oui, enfin, c'est vrai que c'est une invitation au voyage. Et c'est une invitation aussi à regarder les paysages avec un autre œil. Disons,
ne pas se contenter de prendre une photo touristique et d'avoir une explication.
On est tous émerveillés par les paysages montagneux. Il y a les dimensions verticales, il y a la distance, il y a la majesté.
Et cette immensité, on se sent tellement peu de choses finalement à côté de ces grandes
montagnes. Si on arrive en plus à imaginer le mouvement en regardant quelques traits caractéristiques, des couches qui sont toutes penchées dans une direction, des surfaces qui se raccordent les unes aux autres ou qui changent d'orientation. Bon, c'est enrichissant, on se pose des questions qu'on ne se poserait pas autrement. Voilà.
Quelles sont les photos, peut-être que vous en avez quelques-unes en tête, quelles sont les photos qui vous ont le plus marqué dans ce livre, Montagnes et grandes œuvres de la Terre?
Ah ben moi, j'ai une
quelle est votre préférence?
J'ai une petite passion. J'aime beaucoup les images, les multiples terrasses plissées dans les vallées autour du Taklamakan, par exemple. J'aime beaucoup aussi les sommets plats des montagnes mongoles. Hein. Je suis...
Vous êtes pour l'originalité, alors?
Très fasciné par le bord occidental du plateau éthiopien, avec le Nil, les affluents du Nil là, qui attaquent Alors ça, c'est aussi une fausse montagne, hein, ce plateau volcanique fantastique, qui est quand même à 4000 mètres d'altitude. J'ai, la vision de la haute chaîne himalayenne depuis le nord, c'est quelque chose de magique, etc., etc.
Ces photos qui représentent 20 ans de parcours à travers le monde, je suppose qu'il doit y avoir des anecdotes. Peut-être que vous en avez une à nous livrer, au moins pour nous donner la saveur d'une certaine photo, peut-être prise, je ne sais pas, être attaqué par un troupeau d'iaques, par exemple.
Oui, on n'a pas été attaqué par des troupeaux d'iaques, mais des anecdotes, j'en ai beaucoup. Aller dans ces régions-là, c'est souvent difficile dans le sens qu'il n'y a parfois pas de route. Hein. Donc, j'ai des anecdotes. On a fait, par exemple, une expédition au Tibet en 1997 avec nos collègues chinois où, littéralement, tout a été catastrophique. On se guidait avec des images spot parce qu'il n'y avait pas de... On n'avait pas d'autres moyens de voir les endroits où passer. Il n'y avait pas de route, des rivières infranchissables. On avait des camions qui s'enlisaient invariablement à chaque traversée dans l'endroit humide de tous nos camions qui n'avaient que deux roues, qui n'avaient même pas quatre roues motrices. S'enlisait. Alors, à 4000 mètres, quand il s'agit de sortir les camions de la boue, c'est quand même
essoufflant.
Pénible. On avait des voitures. Enfin, beaucoup de nos anecdotes sont liées aux moyens de transport. Hein. Bon, les chauffeurs chinois, j'ai d'excellents collègues chinois, mais vous savez, en Chine, le chauffeur est roi. Parce que, bon, pendant longtemps, les Chinois ne conduisaient pas leur propre véhicule. Donc, le chauffeur avait simplement pouvoir de vie et de mort sur l'expédition. S'il décidait qu'il faisait grève, il s'arrêtait, terminé, tout le monde était bloqué. Et donc, on a vu des véhicules se désintégrer, des véhicules dans lesquels on pouvait monter qu'en courant, parce que la première et la seconde ne marchaient plus, il fallait les garer sur des pentes. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier film qui est très, très amusant d'ailleurs, qui s'appelle Little Miss Sunshine, où une partie du groupe d'acteurs se retrouve dans un bus Volkswagen qui a aussi ce problème. Ils sont obligés de sauter dans le bus Volkswagen pour rentrer
en
marche, oui. Et donc, on a des tas d'anecdotes de ce genre. On a quelques anecdotes aussi qui font un peu se hérisser les cheveux sur la tête.
Oui. Hein, lorsqu'on... Vous avez risqué votre vie.
J'hésite à employer ces mots-là, mais typiquement, certaines des très grandes failles que nous étudions dans le nord du Tibet sont à des altitudes importantes, 5000 mètres. Et disons, pour les atteindre, il faut grimper. même si on part de 4005, 5005 c'est haut, hein, ça fait 1000 mètres de dénivelé. Ouais. Et le temps parfois change très rapidement, donc on s'est retrouvé dans des white-out complets, on n'aurait pas eu de GPS, on était cuit quoi, si on n'avait pas eu les coordonnées du camp.
Hein, parce que vous partiez à deux, vous partiez quand même
non,
plusieurs.
Non, on est toujours en groupe, voilà, on est toujours en groupe, hein, on est toujours trois ou quatre.
c'est un groupe, effectivement, vous êtes très nombreux.
Oui, enfin, on est assez nombreux. Enfin, trois ou quatre, disons, occidentaux et le même nombre de collègues chinois. Beaucoup de mes doctorants, étudiants ont parcouru toutes ces régions. Donc voilà, alors, on a des anecdotes de ce genre-là.
Donc à chaque fois que vous voyez une photo, elle vous rappelle...
Elle nous rappelle certainement la manière, enfin voilà. Le mal qu'on a eu à arriver là, et le contexte, oui, absolument, oui. C'est les endroits qui nous sont maintenant une grande source de souvenirs amusants.
Eh bien, nous invitons nos auditeurs à parcourir ces montagnes avec cet ouvrage « Montagnes, les grandes œuvres de la Terre » paru en octobre 2006 aux éditions de La Martinière. Un ouvrage de photos de Kevin Kling et les textes de Paul Taponnier. Merci Paul Taponnier de nous avoir rendu visite et de nous avoir donné tous ces détails, toutes ces explications concernant ces photos. Je rappelle également à nos auditeurs que pour voir d'autres photos de Kevin Kling, il y a une exposition qui se déroule jusqu'au 10 janvier 2007. Qui se déroule sur les grilles en fait du Jardin du Luxembourg à Paris, des photos, mais sur un tout autre sujet, je crois, Paul Taponnier.
Oui, un tout autre sujet, c'est sur les enfants du monde. Je vous ai dit tout à l'heure que ma femme et moi n'avons pas toujours voyagé ensemble, en particulier parce que, je dirais même pas souvent, en fait, on s'est rencontrés au milieu de ces montagnes, mais nous, on passe notre temps, nous les géologues, à œuvrer dans un univers minéral où finalement, il n'y a pas beaucoup de vie parfois. Hein, l'expédition dont je vous parlais là, le 97, on n'a pas rencontré âme qui vive, quelques ours, quelques émiones, mais c'est tout. Pendant trois semaines, on ne voit personne. Évidemment, une photographe est plus intéressée par la vie, y compris
par saisir les instants.
Voilà, les instants, les comment les gens vivent, etc. Et donc l'exposition que vous voyez sous les auspices du Sénat sur les grilles du Luxembourg, c'est une exposition qui est consacrée aux enfants du monde. Donc c'est une autre facette de son talent et de son activité.
Et pareil, donc ces photos font partie d'un recueil en fait. C'est un livre qui est sorti certainement
qui
déjà.
Qui est sorti, il est sorti même il y a quelques mois déjà. C'est un qui s'appelle Terre d'enfance.
Terre d'enfance. Eh bien merci ouais. Paul Taponnier. Je rappelle également à nos auditeurs que pour en savoir plus sur la déformation des continents, notre émission Éclairage, toujours en compagnie de vous Paul Taponnier, pour tout savoir sur la formation des montagnes.
Pas tout.
Non. Une partie, pas une tout, grosse
non,
partie.
Je vous remercie, mais pas tout. Vous remarquez que dans tous ces titres, la Terre, hein, c'est la Terre qui est présente et qui nous fascine. Et il faut bien dire, quoi, c'est la plus belle des planètes.
Eh bien, c'est sur ces derniers mots que nous nous quittons. Merci Paul Taponnier et puis à bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir.
Absolument.